C'est Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute d'Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Nous sommes le jeudi 12 février, plus que un jour avant le week-end et le début des vacances scolaires. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi pas trop mal niveau météo, même si à la radio, on attend avec impatience le retour des beaux jours. En studio aujourd'hui avec moi Sonia, bonjour à toi.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va bien, écoute, c'est bientôt le week-end.
Ah, on a hâte. À chaque fois que j'ai l'antenne, de toute façon, je dis que j'ai hâte d'être en week-end. Ils vont penser que je n'aime pas mon travail. Alors, tu as réalisé le reportage d'aujourd'hui. Tu nous emmènes dans un univers littéraire. De quoi s'agit-il?
Alors, j'ai été à la rencontre de 3 librairies indépendantes et locales, donc amiénoises. J'ai été à la rencontre de Julie, de la théière de la librairie, de Philippe et Bruno, de la librairie du Labyrinthe, et de Marie, de la librairie Martel, pour parler des librairies indépendantes et locales face aux grandes distributions du livre. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Julie. J'ai ouvert cette librairie il y a 3 ans maintenant, en 2023. Et auparavant, donc, j'étais déjà libraire pour une enseigne de grande distribution culturelle. Et j'ai toujours été passionnée par la littérature. Et ça faisait longtemps que j'avais ce projet en tête.
Alors moi, je suis le vieux libraire, c'est-à-dire la personne qui a créé la librairie avec Élise. Il y a... c'était en 1988. Vous ferez le calcul vous-même, mais ça doit être 37, 38 ans, quoi. J'ai pas toujours été libraire, j'ai fait pas mal de boulot, mais j'ai toujours été un petit peu dans le livre. J'ai commencé comme ouvrier du livre, par exemple, à l'imprimerie Hiver et Tellier. Et je suis aussi éditeur. Et c'est Bruno qui aura les manettes pour préparer cette grande fête, les 40 ans, bientôt.
Je viens d'Amérique centrale, du Guatemala, du coup ça me fait un petit bout de voyage. La librairie du Labyrinthe, je connaissais de mes quelques passages à Amiens. Et lorsque j'ai du coup déménagé en France, j'ai commencé à chercher un endroit pour faire une alternance. C'est une formation libraire avec l'école de la librairie à Paris. Et j'ai passé avec Philippe qui m'a dit qu'elle ne prenait pas des alternants, mais on a discuté. Et au bout de 30-40 minutes, il m'a raconté l'éventualité ou le projet de trouver quelqu'un qui reprenne la librairie. Là, ça va faire un an et demi que je suis ici. Et on fait une transition qui, à mon avis, se passe très bien, en douceur, sur le long terme, disons.
Je fais partie de la famille Martel. Je suis la 3e génération. Je reprends la librairie avec mes cousins. Je suis directrice du livre. J'ai repris le poste de ma mère. C'est une librairie familiale qui a été créée en 1957 par mes grands-parents, Annie et Lionel Martel.
Depuis l'ouverture, comment est-ce que la librairie a évolué ?
Donc la librairie a fort évolué depuis presque 70 ans, parce qu'on va fêter nos 70 ans en 2027. Au départ, c'était un magasin de 15 mètres carrés environ, qui était situé juste en face de la cité scolaire et qui faisait exclusivement du manuel scolaire et de la papeterie. Après, on a bougé rue Léon Blum avec un magasin d'environ 90 mètres carrés qui a été agrandi à 100 mètres carrés. Donc là, il y avait déjà un petit peu plus de produits, de livres, de jeux, de jouets. Et depuis 1974, on est rue des Vergeaux avec le magasin actuel que vous connaissez, avec plus ou moins de changements aussi au niveau des propositions de produits.
Quand j'ai ouvert la librairie, Internet n'existait pas. L'ordinateur existait, mais Internet n'existait pas. Rien n'était informatisé dans les librairies. Ni les commandes, ni les... On a commencé avec le Minitel, vous voyez, le petit Minitel. Donc, les évolutions, elles sont venues... les évolutions, des révolutions même des fois, hein, parce que le numérique a été une révolution, comme Gutenberg a été une révolution au XVIe siècle. Je dis pas qu'on a subi, on a suivi les évolutions et les révolutions techniques et aussi commerciales. Hein, parce que le paysage des librairies a changé aussi. Hein. On est passé de petites librairies à moyennes librairies et grandes librairies à supermarché du livre, on va dire. Donc voilà, toutes ces évolutions-là, on les a vécues sur cette petite quarantaine d'années. Mes activités ont toujours été un petit peu autour du livre. De l'imprimerie à la librairie, à un moment donné, j'ai eu envie de créer, de faire. Donc j'ai commencé en 2000, un à deux livres par an. Alors d'abord, beaucoup de livres sur la région, et dont d'ailleurs quelques livres, 7-8 livres en bilingue picard-français, parce que je tiens vraiment à défendre cette langue. Et qui fait partie des diversités poétiques, hein, pour moi, comme toutes les langues d'ailleurs. Pour moi, l'édition fait partie aussi d'un outil pour retarder cette mort annoncée de ce patrimoine linguistique. Et après, j'ai édité donc pas seulement des livres sur la région, mais aussi des romans, quelques essais. C'est à peu près un rythme de 1 à 3 livres par an. La principale activité restant la librairie.
Comment elle a évolué? Ça se développe plutôt bien. On a affiné nos sélections en fonction de notre clientèle, parce que du coup, c'est vrai que tout était nouveau. Enfin, un commerce comme celui-là, librairie Salon de Thé, comme ça, il n'y en avait pas encore à Amiens. Donc, on a appris à connaître notre clientèle, on a vu en fonction de leurs attentes ce qui fonctionnait moins, on a ajusté. On vend beaucoup de la littérature, beaucoup de romans, de la fiction. On vend pas mal d'essais féministes aussi, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et on fait aussi pas mal de jeunesse. On a beaucoup de mères de famille qui viennent. Enfin, nos clients, c'est essentiellement des clientes, en fait. C'est beaucoup de femmes.
Au sein de la librairie, il y a combien de personnes qui y travaillent actuellement?
Alors, on est 3. Donc, il y a moi qui suis à la tête de la structure et j'ai 2 alternantes. Moi, je chapeaute un peu l'ensemble, on va dire. J'assortis tout le fond, toutes les sélections, c'est moi qui les réalise. Après, je m'occupe aussi, enfin, on le voit pas forcément comme ça, mais une librairie, c'est un commerce avant tout, donc il y a beaucoup de papiers, d'administratifs, donc je m'occupe de tout ça. Après, je m'occupe aussi de la communication sur les réseaux, parce que c'est pareil, en fait, c'est une partie qui est très prenante, et c'est vraiment essentiel, en fait, de nos jours. On le voit, c'est ce qui nous fait venir des clients, vraiment. Ensuite, après, on a Julia qui s'occupe, elle, de tout ce qui est commande professionnelle. Donc, elle travaille avec les bibliothèques, les collèges, les lycées, enfin, les écoles, tout ce qui est vraiment client professionnel. Et puis, on a Julie qui s'occupe de tout ce qui est vente aux clients particuliers, donc l'accueil, le conseil, qui est plutôt polyvalente.
Là, 3, mais pas 3 à plein temps. Bruno, qui va reprendre bientôt la librairie, parce que moi je vais continuer, mais essentiellement l'édition.
Si on compte tout le monde, vraiment, de l'hôtesse de caisse au libraire, au comptable et à la personne qui reçoit tous les colis le matin, on est un peu moins de 45. On est entre 40 et 45.
Vous vendez du neuf et de l'occasion ou uniquement du neuf?
Actuellement, on vend du livre neuf. Et on vend aussi du livre neuf à prix réduit. Le livre neuf à prix réduit, c'est un livre qui est édité depuis au moins 2 ans ou qui est totalement en arrêt de commercialisation. Par conséquent, la loi Lang, c'est sur le prix unique du livre, c'est-à-dire que vous alliez à la théière de la librairie, chez Cultura, sur Amazon, chez Martel, on retiendra plutôt les commerces indépendants, le prix du livre sera le même partout. Sur des livres en arrêt de commercialisation, ce tarif-là ne s'applique plus, donc on peut appliquer le tarif que l'on souhaite. Donc on a une petite sélection de livres en arrêt de commercialisation pour encore une fois satisfaire des gens qui auraient par exemple un pouvoir d'achat un peu moins important que d'autres, et ça leur permettrait de pouvoir aussi se faire plaisir. On fait également de belles découvertes, parce qu'on a eu l'exemple d'un livre qu'on a réussi à récupérer qui est en arrêt de commercialisation, et il y a des gens qui le cherchaient depuis des années. C'était L'art de la caricature chez Citadel et Masno. Ils le recherchaient, ils ne le trouvaient pas, et on a pu satisfaire un client à Noël avec ça, et il était très content.
Alors, Nous, on est une librairie de neuf, c'est-à-dire qu'on vend, sauf exception, sauf rare exception, des livres neufs. C'est vrai qu'on a une petite sélection de livres d'occasion, mais ça reste assez anecdotique. On est fondamentalement une librairie et pas un bouquiniste. C'est plutôt des livres d'occasion, tandis que nous on traite directement avec les éditeurs, avec les distributeurs. C'est des nouveautés, des commandes qu'on peut aller chercher plutôt que des livres de deuxième main. Oui.
C'est que du neuf. Comme on gère déjà tout ce qui est salon de thé, on a une partie aussi tout ce qui est un peu accessoire. Et on a aussi les livres, forcément. Si on rajoute en plus de ça une gestion avec de l'occasion, là c'est un peu beaucoup. Ouais. Donc peut-être par la suite, mais pas dans l'immédiat.
Julie de la Tailleur de la librairie, Philippe et Bruno de la librairie du Labyrinthe et Marie de librairie Martel sont toutes les trois des librairies indépendantes. Elles sont soumises aux mêmes règles, la loi Long, qui dispose d'un prix unitaire pour toute vente de livres. Malgré ça, elles sont concurrencées par les grandes chaînes de distribution du livre, alors elles doivent se démarquer.
Comment est-ce qu'une librairie indépendante et locale se démarque en gros des enseignes plus grandes, que ce soit les boutiques physiques ou les plateformes sur Internet?
Alors, elles se démarquent déjà par notre accueil, parce que moi je mets vraiment un point d'honneur à ce qu'on soit très bienveillante, qu'on conseille au mieux chaque client, qu'on leur trouve vraiment le meilleur livre, parce qu'on est toutes les trois lectrices, donc on conseille au mieux les clients. Et après, bien sûr, je lis pas tous les livres que j'ai sortis, mais je les sélectionne, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de livres qui paraissent chaque semaine, et donc je sélectionne soigneusement chaque livre, ce qui est pas forcément le cas sur les plateformes de vente en ligne, par exemple. Donc, voilà. Et après, on se démarque aussi par le concept en lui-même. Donc, le côté salon de thé qui est chaleureux, qui permet ce que je disais au début, donc la convivialité, l'échange. Hein, on a plein de clientes qui se sont rencontrées, qui reviennent ensemble. Vraiment, c'est une structure qui crée des liens. Et je pense que ça nous démarque vraiment. Le fait qu'on soit une petite structure... familiale un peu. On envisage de continuer de la développer, de continuer de communiquer. En fait, il y a encore énormément de gens qui nous découvrent tous les jours. On n'est pas si connus que ça. Hein, donc, on envisage de continuer à développer notre clientèle.
Vous dites vrai que il y a certains géants qui menacent le monde du livre indépendant. Ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire la librairie a toujours fait face et a survécu face à des menaces à leur survie économique, quoi. C'est-à-dire il y a toujours eu des grandes pressions. Aujourd'hui, la grande pression vient en effet des ventes sur Internet et de façon générale d'un certain changement dans les mentalités où on s'habitue à une commande, on peut l'avoir pour le jour suivant. C'est-à-dire c'est un autre rythme de vie que nous on essaie de contrebalancer avec un espace où on peut vraiment prendre le temps, feuilleter des livres, découvrir, se laisser porter par le hasard plutôt que par l'immédiateté. Le conseil, c'est une grande partie de ce qu'on considère qu'être le noyau de la librairie indépendante, c'est-à-dire ça fait partie de l'expérience, arriver avec le libraire, avec la libraire, et qui souvent, on connaît à peu près les goûts de tel ou tel client habitué. On met de côté tes livres pour tel autre parce qu'on sait que ça pourrait l'intéresser. On fait nos commandes aussi en grande partie avec ce que les clients nous conseillent et du coup ça crée un peu un feedback loop de bons conseils et ça fait partie de la magie de la librairie indépendante, oui, qu'on ne retrouve pas dans les grandes enseignes ou sur Internet.
Oui, sur les animations, ce qui est important pour une librairie, c'est pas seulement un lieu de commerce, c'est un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu de démocratie, c'est-à-dire que on préserve aussi la diversité et l'échange, le débat. C'est pour ça qu'on s'inscrit aussi dans la cité, hein, vraiment, dans tout ce qui est politique au sens noble du terme et culturel. Et Bruno a évoqué des associations qui font appel à nous pour nourrir, on va dire, le débat du livre. Et on est là pour ça aussi. Et ça, c'est vraiment important, le lieu. Nous, on s'inscrit vraiment dans cet espace. On veut être un lieu. Les gens ont besoin de lieux. Ils l'ont vécu, ça, après le Covid. On a eu cette vague de... Vraiment, les gens qui ont ressenti à ce moment-là ce manque de lieux qui avaient des âmes, d'endroits, de diversité et de liberté. Et justement, on parlait du temps et d'endroits aussi où on peut prendre son temps. Ça, c'est très important. Ça peut être aussi une évolution qui, pour moi, n'est pas bonne. Il peut y avoir une sorte de formatage des librairies indépendantes aussi, vous voyez. Et moi, qui suis tout à fait pour la transmission, je suis très heureux, par exemple, qu'il y ait eu des écoles de la librairie maintenant. Et le labyrinthe s'inscrit vraiment dans ce combat de la diversité.
C'est marrant cette histoire de formatage parce que c'est un truc que j'ai vu de façon assez marquée en faisant la formation parallèlement au travail ici au labyrinthe. On nous donnait des listes de tout ce qu'il ne fallait pas faire et je me disais mais c'est exactement ce qui fait que la librairie du labyrinthe marche. C'est-à-dire, on nous disait de ne pas mettre des piles de livres avec plusieurs titres qui cachent l'un... C'est ce qu'on aime bien du labyrinthe, c'est qu'on peut fouiller, découvrir sous un livre un autre, vraiment ce côté
du
hasard, de la casette. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est cette personnalité un peu atypique qui fait du labyrinthe un endroit si spécial et qui fait que notre clientèle, qui est une clientèle très, très fidèle, revienne après 10, 20, 30 ans nous visiter très régulièrement. On vient de commencer à faire de la livraison avec des plateformes de référencement. Il en existe plusieurs, Place des Libraires, Librairie Indépendante, leslibraires.fr. Enfin, ils sont plusieurs à reprendre les stocks donc, des librairies indépendantes et les proposer pour qu'on puisse voir si telle et telle librairie ou si tel et tel titre est disponible sur une ville, sur un quartier. Et c'est un vrai outil pour les librairies indépendantes. Nous, on vient de commencer à l'utiliser puisqu'on vient de s'informatiser. On était... encore une méthode de stock, enfin de gestion du stock qui ne comptait pas sur un logiciel, comme c'est le cas pour la grande majorité des librairies indépendantes aujourd'hui. Vu les changements dans la chaîne du livre, l'informatisation, etc., ça devenait nécessaire, mais du coup, ça ouvre la possibilité aussi ces sites de référencement. On pense aussi à Passe Culture, même si le budget de Passe Culture a été, comme on sait, radicalement réduit. Mais ça reste des outils pour les librairies indépendantes d'avoir une présence sur Internet et sur l'ensemble du pays aussi.
Rares sont les libraires indépendants aujourd'hui qui ne font pas un tout petit peu de diversification. C'est aussi maintenant un moyen de survivre pour les libraires indépendants. On a déjà mis en place des espaces conviviaux, des espaces de lecture, mais on essaye de réfléchir à d'autres choses aussi, d'autres façons de faire venir du monde en librairie. Il y a des librairies qui font par exemple, j'avais vu ça, je ne sais plus quelle librairie faisait ça, mais une soirée autour de la littérature italienne avec dégustation de vin italien. C'est une super idée. C'est pas très compliqué à mettre en place. Mais c'est autre chose, c'est une autre expérience en librairie. Le métier de libraire, c'est on va penser à la vente de livres. C'est plein de choses, c'est du conseil, c'est de la mise en relation. On fait aussi pas mal d'animations, que ce soit au rayon jeux, au magasin de jeux à côté, ou même dans la librairie avec la venue d'auteurs. On a un book club romance, on a un book club jeunesse. Donc on essaye de faire d'autres choses que de la vente simple. Ce qu'on essaye de faire aussi pour plus tard, pour l'avenir, c'est de repenser un petit peu nos librairies dans le sens où ne plus être juste un lieu de vente, mais un lieu où on est bien, où on passe du temps, où on se dit bah, je te retrouve chez Martel et puis comme ça on pourra papoter un peu. Voilà, on essaye de créer un petit peu ça pour plaire aussi à la nouvelle génération qui a besoin d'une expérience en plus.
Dernière question, où est-ce qu'on peut vous suivre ?
Notre premier lieu de communication, c'est bien sûr en magasin. Ne jamais hésiter à parler avec nos libraires, leur poser des questions. On a également une page Instagram et une page Facebook.
Vous trouverez la librairie du labyrinthe sur tous les réseaux classiques, Facebook, Instagram Et on a aussi notre catalogue sur notre site internet, librairiedulabyrinthe.fr. Et vous pouvez trouver aussi notre stock, vérifier si on a un exemplaire sur placedeslibraires.com. Mais bien sûr, ce qu'on préfère, ce qui est mieux, c'est que vous veniez ici à la librairie, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger sur nos coups de cœur, nos conseils. C'est toujours l'âme de la librairie indépendante, c'est ça.
Bah donc sur Instagram et sur Facebook et aussi sur TikTok, voilà.
Bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Bah avec plaisir.
Merci à vous.
Bah merci à vous d'être venu nous voir.
C'était Smooth Operator, un titre de l'artiste Sad. Vous êtes toujours sur le 87.7 FM à l'écoute d'Info Club Sandwich. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, en première partie d'émission, Sonia vous a présenté un reportage sur les librairies amiénoises. De mon côté, je vous réserve pour terminer l'émission une chronique autour d'un spectacle que nous sommes allés voir hier avec Aline à la Comédie de Picardie et à destination du jeune public. Un enfant, d'après A. Ernesto de Marguerite Duras, dans une mise en scène de Vincent Aigrepont. Alors de quoi ça parle ? À l'origine, A. Ernesto est un court texte écrit par Marguerite Duras pour les enfants. On y suit Ernesto, un garçon qui refuse catégoriquement de retourner à l'école. Sa raison est simple, absurde en apparence, mais redoutablement efficace. Il ne veut plus y aller parce qu'on lui apprend des choses qu'il ne sait pas. Une phrase qui fait sourire, mais qui ouvre surtout un jeu de questions sur l'apprentissage, la curiosité et la façon dont on transmet le savoir. Sur scène, l'histoire se construit à travers une série de dialogues entre Ernesto, ses parents et l'instituteur. Les échanges sont souvent drôles, parfois décalés et toujours accessibles. Le texte joue avec la logique, détourne les évidences et invite les enfants à réfléchir sans jamais leur donner de leçons. La mise en scène est volontairement simple et dynamique. Quatre comédiens se partagent les rôles avec un jeu très physique et un rythme soutenu qui maintient l'attention. La durée du spectacle, environ 50 minutes, est parfaitement adaptée au jeune public. Ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est que le spectacle ne cherche pas à infantiliser. Les enfants comprennent l'histoire, rient des situations, tandis que les adultes perçoivent en filigrane une réflexion plus large sur l'école, l'autorité et la liberté de penser. C'est un théâtre donc qui fait confiance à l'intelligence des plus jeunes. Un enfant est une bonne porte d'entrée vers le théâtre pour les enfants à partir de 9 ans. Un spectacle accessible, malin, qui donne envie de discuter en sortant de la salle et qui prouve qu'on peut aborder des sujets sérieux avec légèreté et humour. Pour celles et ceux que ça intéresse, Un enfant est à voir ou revoir à la Comédie de Picardie jusqu'au 13 février, avec plusieurs représentations prévues, notamment une en matinée et une en début d'après-midi, idéal pour le jeune public et les sorties scolaires. Toutes les informations et les réservations sont donc à retrouver directement sur le site de la Comédie de Picardie. Voilà, sur ces belles paroles, Info Club Sandwich se termine avec, pour musique, Kissing Someone Else de Caroline Kingsbury, une proposition de Sonia. On se dit à demain pour finir en poésie la semaine avec l'appel à poèmes de la chouette imprévue. L'émission du jour est disponible en réécoute sur notre site internet radiocampusamiens.fr. À demain.
You met her drinking.